Il est minuit 18 sur Europe 1. Je vous remercie pour vos messages au 39-21, au 739-21, bien évidemment. Vos messages d'encouragement, Christiane, Sabine, Thierry, Jean-Louis, merci. C'est très gentil. Bon retour à vous aussi, hein, puisqu'on vous souhaite la bienvenue, puisque vous êtes ici chez vous sur Europe 1, 7 jours sur 7. Vous avez votre libre antenne et le week-end, vous allez accueillir un nouveau intervenant. Vous allez être avec Yann Moix durant tout le week-end maintenant, qui va animer cette libre antenne. Cette libre antenne, c'est toujours 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va accueillir Fabrice maintenant, 39-21. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Alors Fabrice, on s'était déjà parlé au téléphone et vous avez repris contact avec Florian pour évoquer votre situation, que je vais vous laisser résumer en quelques lignes. Vous avez été accusé à tort, hein, puisque vous avez bénéficié d'un non-lieu. Vous m'interrompez si je dis une bêtise. En tout cas, vous avez fait face à de fausses accusations de pédophilie. Étant dans un secteur sur la ville de Paris, hein, c'est ça, la ville de Paris.
C'est ça.
Étant dans un secteur professionnel qui couvrait les écoles, en tout cas où vous deviez vous rendre dans des écoles, vous avez été écarté de votre mission, hein, de ce qu'était votre travail, et on vous a plus ou moins mis au placard, en tout cas on vous a collé dans un bureau, et on vous a empêché de continuer à travailler, en tout cas d'effectuer la mission qui était la vôtre et que vous aimiez plus tôt, malgré le fait que vous ayez bénéficié d'un non-lieu, en tout cas que vous y étiez blanchi par la justice. Et j'insiste sur ces mots, car on va l'évoquer ensemble, à nouveau, Fabrice, parce qu'on va faire un point sur votre situation. Mais aujourd'hui, dans ce pays, lorsque la justice blanchit quelqu'un, comme le système démocratique que nous avons la chance d'avoir avec cette justice, hein, qui, même si elle a du mal à fonctionner, fonctionne et rend justice, eh bien, votre cas montre que la société ne l'entend pas comme ça. Et que la société, même, irait aujourd'hui, plus facilement, beaucoup plus facilement et plus directement vers le tribunal populaire qu'elle crée à travers les réseaux sociaux, ou même qu'elle crée dans un microcosme comme on va le voir dans votre secteur professionnel où vous avez affaire aujourd'hui à une hiérarchie qui vous a jugé et qui, elle, ne prend absolument pas en compte ce non-lieu, et continue de vous infliger plusieurs, on va dire, qui vous met au placard, qui continue de faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez dégoûté. Alors, vous allez nous expliquer où vous en êtes aujourd'hui, et on vous écoute.
Alors effectivement, comme vous l'avez évoqué, j'ai une ordonnance de non-lieu qui a été validée par la Cour d'appel en juin 2022. Mon ordonnance de non-lieu date donc de 2021. Et depuis cette date, en fait, on me placardise en m'interdisant de me rendre donc, sur les établissements que j'ai en gestion au motif de cette accusation fallacieuse qui était là où la justice a démontré qu'il n'y avait rien eu.
Cette accusation, vous pouvez nous rappeler, parce qu'en en fait, il y a des personnes ce soir qui n'en connaissent pas l'origine, en tout cas le contexte, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots?
C'est un contexte de séparation conflictuelle, et où j'ai été donc accusé de pédophilie sur ma fille de 3 ans à l'époque.
Oui.
Voilà, j'ai eu un classement sans suite en 2016. En juin 2016, après avoir été mis en garde à vue en janvier 2016. Et durant toute cette période, jusqu'à 2021, ma hiérarchie de l'époque m'a toujours fait confiance, puisque j'ai toujours été transparent dans ce qui se passait dans ma vie privée vis-à-vis de ma vie professionnelle. Et ça me paraissait plus que logique, puisque ça avait eu des impacts, puisque bon, là, j'ai eu des périodes d'arrêt de travail très longs, plus de 6 mois. Donc voilà, les gens étaient très au courant, ils m'ont toujours soutenu jusqu'en 2021, jour où il y a eu cette ordonnance de non-lieu, bizarrement, parce qu'on a changé de responsable hiérarchique, deux responsables hiérarchiques qui sont
Oui,
arrivés
oui.
et qui ont, donc voilà, deux nouveaux responsables que j'ai tenu au courant de ma situation, comme je l'avais toujours fait à l'époque. Et là, ben, la machine, l'engrenage s'est mis à tourner ovale, on va dire ça comme ça.
Oui.
Et puis donc, voilà, de fil en aiguille, on m'a dit, ben non, vous n'allez pas y aller, dans les écoles, vous n'y allez plus, on vous ordonne ceci, cela. Ben, moi, j'ai demandé des écrits, personne n'a jamais voulu m'écrire. Ça a toujours été des on-dit, ça a toujours été des sous-entendus. Jamais, si vous voulez, jamais voilà, noir sur blanc,
Oui.
me disant, vous n'y allez pas, c'est comme ça, il y a un protocole au niveau des services, voilà, quand il y a des agents qui sont accusés, qui sont mis en place, donc vous n'y allez pas. Sauf que moi, ce protocole-là, il ne m'incombe pas, puisque moi j'avais mon ordonnance de non-lieu. Malgré ça, on m'a effectivement placardisé. Alors, placardisé, donc on me laissait dans le bureau. Aujourd'hui, moi, on m'a mis en télétravail. Alors, il y avait le télétravail lié au Covid, bien entendu, mais on m'a mis 5 jours en télétravail pour me préserver de ma santé psychologique, parce que ça a eu quand même un impact psychologique, hein, sur ma personne, cet état. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis 5 jours en télétravail et j'essaie de gérer à distance ce que je peux gérer, mais je me rends compte au quotidien que je perds l'essence même de mon travail, quitte de pouvoir faire des analyses bâtimentaires. Quand vous n'allez plus sur le terrain, bah vous perdez le fil de votre patrimoine et bah, votre réponse, elle devient de plus en plus étiolée. C'est vraiment compliqué. D'autant que moi, j'étais dans ce service-là depuis plus de 20 ans.
Oui.
Je suis un peu la mémoire du service. Les autres services avec lesquels je travaille m'appellent en disant, mais est-ce que tu te souviens de telle et telle affaire? Dans quelles circonstances ça s'est fait et comment ça s'est fait? Donc, je suis capable de donner ces éléments puisque je suis la seule personne qui est là. Enfin, qui reste en poste, les autres sont partis, soit en retraite, soit mes collègues sont partis, soit en retraite, soit en muté. Donc je suis un peu la mémoire du service. Et malgré tout, voilà, malgré les ordonnances de non-lieu, malgré les éléments qui sont mis en place, on me placardise et on redispatche mon pôle de gestion à mes collègues qui sont complètement débordés. Qui ont été en arrêt de travail pendant 3 mois parce qu'ils n'en pouvaient plus. Voilà, ça a été depuis 2021, c'est une révolution, c'est une catastrophe, les gens s'en vont. C'est terrible, c'est terrible. Moi,
Et ce qui nous amène ce soir à échanger ensemble, c'est que vous avez le sentiment, et ça dépasse même la notion de sentiment, que vous êtes condamné par votre
Ah, mais clairement.
hiérarchie qui voit en vous un pédophile potentiel, en tout cas,
Tout à fait,
en tout cas
tout
un
à fait.
potentiel
D'ailleurs,
danger pour les enfants.
tout à fait. D'ailleurs, j'ai reçu un courrier recommandé il n'y a pas très longtemps. Alors, il faut savoir le lire en diagonale. Bien entendu, ils prennent les précautions d'usage parce que ils sont quand même sur la corde raide. Mais ils affirment quand même des choses qui sont proprement scandaleuses. Et là, pour le coup, là. Ils me disent, vous êtes tenu au protocole de la vie, des services, vous n'allez pas dans les écoles, on vous l'ordonne. Si vous ne le faites pas, vous aurez des sanctions disciplinaires. Vous êtes tenu par votre devoir de réserve, et là j'insiste, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je passe mon devoir de réserve de fonctionnaire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ma santé qui est en jeu. Aujourd'hui, il
Oui.
y a ma santé qui est en jeu parce que l'équilibre que j'avais au travail, je ne l'ai plus, parce que dans ma vie professionnelle, c'est compliqué. Parce qu'on me traite de tous les noms et pratiquement, et je dirais pas pratiquement, mais voilà, ça va peut-être me porter préjudice ce soir, ce que je vais dire, mais on me traite de pédophile en réunion publique, Skype par exemple.
C'est-à-dire?
Ah, on m'a traité, on m'a dit voilà, vous n'allez pas dans les écoles parce que vous êtes comme considéré un pédophile.
Et là,
Et on m'a compte.
vous êtes en droit de porter plainte, hein, contre la personne qui
C'est ce
vous
que
dit.
j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Alors, le dépôt de plainte, je l'ai matérialisé. Voilà, j'ai même été réentendu très récemment par le commissariat de police qui m'a Et c'est là où j'ai de la peine, parce que les gens qui viennent déposer plainte sont pas forcément crus. Alors, bien entendu, il a fallu que je réexplique. La personne m'a poussé dans le retranchement, hein, en me disant, mais c'est vous qui êtes parano, c'est vous qui êtes ceci, c'est vous qui êtes cela. Enfin, quand ça fait 7 ans que vous subissez le harcèlement judiciaire, on vient vous dire ça, je peux vous dire que ça vous met un sacré coup. Mais moi, ça m'a fait penser aux femmes, aux hommes qui viennent déposer plainte pour des agressions, pour des viols, pour des choses comme ça, qui viennent en toute bonne foi. Je parle des gens qui viennent en toute bonne foi de leur agression et qui sont malmenés dans cet interrogatoire. Je peux vous dire que c'est violent. C'est extrêmement violent. Moi, aujourd'hui, j'arrive à avoir du recul, même si ça m'a chamboulé, j'arrive à avoir du recul, mais ça reste violent. Et la situation dans laquelle je suis aujourd'hui par rapport à mon emploi, c'est une violence extrême. Bon, je suis 5 jours en télétravail parce que voilà, on m'a protégé au niveau de ma santé et au niveau de ma hiérarchie, parce que voilà, il y a un conflit, mais moi je reste professionnel, donc je continue à travailler, à avoir des échanges qui sont cordiaux, tant qu'on ne vient pas évoquer ma situation personnelle. Et ce qui est rarement le cas, puisque lorsqu'on me pose des questions sur mon travail, je ne peux les donner, puisque je ne vais plus sur les lieux sur lesquels je dois visiter, ce sont mes collègues qui y vont. Et vous sentez que derrière, on met la pression, on dit, bah oui, mais vous ne répondez pas correctement. Ah bah oui, mais vous n'avez pas fait ci. Ah bah oui, mais le problème, c'est que je n'ai plus les éléments. Enfin, je suis obligé d'aller à la pêche aux éléments de façon différente. Donc voilà, c'est tout un système. Vous êtes broyé par le système. C'est juste horrible, quoi.
Oui, d'autant plus qu'on sait que vous n'êtes pas le premier à faire l'objet de telles accusations dans un contexte de séparation qui se passe mal. Voilà, on sait que parfois, ce type d'accusation fait mouche, hein, en tout cas, on le voit dans votre cas, même si vous avez bénéficié d'un non-lieu, à partir du moment où l'accusation est lancée, bah, y a le fameux « il n'y a pas de fumée,
pas
sans,
de fumée
feu.
Sans feu ».
Voilà. Et voilà. Dès que ça est parti sur des histoires qui ont affaire avec les enfants, c'est mort.
C'est terminé. Alors, c'est ce que me disait le policier très récemment. Il me dit, malheureusement, vous êtes dans un poste d'emploi où cette marque au fer rouge, vous allez la porter toute votre vie. Et moi, je dis, mais moi, je n'ai pas à porter ce sac à dos. Bien entendu, on m'a accusé, bien entendu. J'ai subi la garde à vue, un interrogatoire avec un juge d'instruction qui a duré plus de 4 heures. Où j'étais... Moi, alors, j'étais interviewé par un journal, Le Parisien, pour ne pas le nommer, où la partie adverse dit « mais monsieur a été mis en examen ». Ouais, je rappellerai juste à la partie adverse que la mise en examen, c'est moi qui l'ai demandé pour pouvoir intervenir et me défendre avec des procédures judiciaires. Parce que le juge d'instruction, lui, voulait m'entendre en tant que témoin assisté. Et j'ai dit non, je souhaite être mis en examen pour pouvoir intervenir par rapport à des actions judiciaires. Je vais être mis en examen en tant que témoin assisté, vous n'avez pas les mêmes droits qu'en tant que mis en examen. Donc c'est de mon propre fait. Et on vient pratiquement me reprocher ça d'avoir été mis en examen. Je veux dire, il y a des choses qui sont inentendables, je ne peux plus entendre ces choses-là. Voilà. Et qu'on ne respecte pas des décisions de justice, je trouve ça dur à entendre. Il y a des juges d'instruction qui sont passés, il y a des enquêtes, il y a des dizaines de personnes qui sont venues interroger mes collègues, qui sont venues m'interroger moi. J'ai passé des années, des heures et des heures à me justifier, à expliquer, à réexpliquer, à re-expliquer. Quand ça se termine, non, c'est mon emploi qui vient me couper l'herbe sur le pied et me remettre dans une situation ingérable.
Alors, ce qui m'a intéressé dans votre histoire, Fabrice, bien évidemment, c'est aussi le parallèle que vous pouvez faire aujourd'hui avec tout ce qui peut avoir affaire à des accusations sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent toucher des personnalités publiques. Vous l'avez évoqué la dernière fois que nous avons échangé.
Tout à fait.
Et
tout
c'est
à
quelque fait. Chose qui vous a, enfin, qui vous a heurté, hein, et qui vous heurte à chaque fois qu'une histoire comme... vous aviez évoqué Jean-Jacques Bourdin à l'époque. Dès qu'une histoire comme ça éclate, vous vous sentez Vous vous sentez un peu concerné par ce système-là?
Mais en fait, je suis devenu hyper sensible par rapport à ces situations-là. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, donc il y a le tribunal public qui vient d'avancer tout et n'importe quoi, de toute façon il n'y a pas de fumée sans feu, il est comme ci, il est comme ça. Alors effectivement, il y a des gens qui sont malfaisants, qui ont fait des actions répréhensibles, et il est normal que ces personnes-là soient condamnées, soient rattrapées par la justice. D'ailleurs, le mouvement MeToo, quelque part, comme le dit clairement mon avocat, je suis d'accord avec lui, il a eu du bon puisqu'il a permis de faire sortir des gens.
Il était nécessaire.
Il était nécessaire. Mais malgré tout, on ne fait pas partir, c'est son expression à lui, on ne fait pas partir avec l'eau du bain toutes les personnes.
Pourquoi, de votre point de vue ?
Ah ben parce que c'est de la facilité, et c'est quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe par exemple avec la commission civile, quand vous voyez ce qui se passe avec ce qu'a proposé le député Stéphane Peu, qui indique par exemple que toute personne qui serait accusée d'actes répréhensibles sur des enfants, notamment les pères et principalement les hommes, c'est là où moi ça me gratte, principalement les hommes, parce qu'a priori, il n'y aurait que les hommes qui seraient pervers, oui. Bien entendu, on les destituerait automatiquement de leurs droits. Il a fait une proposition de loi en 2019, où il remercie des gens spécifiques d'avoir aidé à écrire cette proposition de loi, et heureusement, elle n'est pas passée. Et vous vous rendez compte que la présomption d'innocence avec ce genre de personnes, c'est terminé, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on viendra prendre en décision judiciaire de mettre tout le monde en prison à la moindre accusation sans enquête.
Oui, malheureusement, parfois, ce type de débat, il peut être mené par des députés, enfin en tout cas des gens qui ont des responsabilités et des politiques, comme ce député qui, je me rappelle très bien, je l'avais écouté parler et j'avais eu ce sentiment que cet homme ne connaissait rien à rien dans les contextes qui créent ce type de situation et créent des victimes comme vous l'avez été. Il y a majoritairement des hommes qui sont accusés de ce type de choses. En tout cas, oui, majoritairement et un peu plus de la majorité. Il y a des femmes qui sont elles aussi accusées d'attouchements, en tout cas d'actes pédophiles. Mais je me rappelle qu'il avait orienté tout ça vers les hommes.
Bien sûr.
Est-ce que votre sentiment aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui a plus ou moins évolué vers un sentiment anti-homme, ou en tout cas les hommes sont un peu plus montrés du doigt et sont un peu plus jugés sévèrement?
C'est même pire que ça, moi je dirais. Alors je vais peut-être choquer les gens avec ce que je vais dire, mais aujourd'hui, moi ce que je perçois, parce que je suis dans ce système-là, j'ai été baigné dans ce système-là depuis presque 10 ans. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est moins sensible et c'est moins prégnant. Mais moi, pour moi, anti-homme blanc, hétérosexuel, vous êtes forcément coupable.
Mais c'est assez dingue d'entendre ça. Oui. À chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais j'ai l'impression d'entendre un truc qui c'est de la fiction. C'est comme si c'était impossible.
Si vous voulez, si vous regardez, alors on parlait des réseaux sociaux, mais vous pouvez regarder à la télévision, enfin, vous êtes dans les médias, mais vous regardez à la télévision les informations, vous regardez les séries, vous regardez, alors le pire de tout, si on l'analyse vraiment, vous regardez Netflix, pour pas les nommer non plus, mais ce genre de passerelle pour regarder des films, vous regardez, c'est ciblé, voilà. En fait, on va mettre en avant. Je suis assez ouvert d'esprit, je pense, mais voilà, on va cibler l'homme blanc hétérosexuel, voilà, comme étant
le méchant,
le mal, le méchant. Ce qui est bien, c'est peut-être d'être homo ou d'avoir un autre penchant. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Il est libre à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est les personnes. Mais si vous êtes un mâle blanc hétérosexuel, alors là, vous êtes, Vous êtes le diable en personne.
Mmh. Alors, je vais vous dire, Fabrice, bien que j'adhère complètement au fait que vous soyez martyrisé de par votre situation, je vous confie vraiment et je vous confesse que, en tant qu'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, je n'ai jamais ressenti la moindre animosité, quelle qu'elle soit. Et je n'ai jamais remarqué ce à quoi vous faites allusion. Plus précisément, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est, j'ai déjà entendu cet argument, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus une série où il ne faut pas mettre un homosexuel, oui. Un transgenre.
Il faut que ça soit la norme. En fait, il faut que ça soit la norme, que les gens puissent s'exprimer.
Je trouve que c'est une... Très sincèrement, hein, je ne ressens pas ça. Et je trouve que par le biais de distraction, de fiction et de choses qui accrochent une plateforme comme Netflix accroche beaucoup de gens, je trouve que c'est plutôt judicieux de faire passer et pas, je ne vous parle pas de normes, mais de montrer une société hétéroclite où tout le monde finit par accepter ou en tout cas ne pas remarquer celui qui est différent.
Pourquoi remarquer celui qui est différent? Pourquoi le mettre en avant, celui qui est différent? C'est ça la question que je me pose, moi, quand je vois ça. Je veux dire, les gens sont différents, tant mieux pour eux qu'ils soient différents. Je veux dire, on n'a pas besoin de les pointer du doigt.
Mm-hmm. Mais ils ne sont pas traités comme tels dans ce que vous dites, en fait. Hein. Ils sont au même niveau que les autres personnages.
Oui, mais pourquoi oui, d'accord, mais pourquoi mettre en avant, enfin, moi, je me pose la question, pourquoi mettre en avant ceci?
Parce que finalement, quand on... Je pense que vous vivez un traumatisme vous vivez un traumatisme et encore une fois j'adhère complètement à votre combat aujourd'hui parce que on ne serait pas en train de parler ensemble, vous le savez, ça fait au moins c'est la troisième fois qu'on se parle hein, sur cette antenne. Si je n'adhérais pas à votre combat et justement je pense vraiment que vous vivez une situation totalement injuste. Mais le fait que cette situation soit totalement injuste peut vous avoir rendu un peu plus sensible à certaines choses.
Je suis d'accord.
Parce que, encore une fois, je vous jure que je n'ai jamais l'impression que l'homme blanc de plus de 50 ans, hétérosexuel, est le méchant dans l'histoire.
Si vous regardez un peu le coup, après, il faut regarder d'un point de vue général et après y revenir se recentrer sur des éléments. Hein. Si vous voulez, c'est un courant général et on vient comme dans un entonnoir. En tirer des éléments. Enfin, moi, c'est vrai que je suis peut-être hyper sensibilisé, comme vous le dites, par rapport à cela. Mm-hmm. Et ça, je le conçois complètement.
Et vous savez, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes hyper sensible et à fleur de peau, et que c'est ma théorie, et ça n'engage que moi. Parce que, vous voyez, j'ai traité de tout un tas de sujets depuis 15 ans, parce que ça fait 15 ans que je fais les films que je fais, et que je me suis intéressé à tout un tas de sujets liés à le genre, les trans, l'homosexualité, enfin toutes ces personnes qui en fait étaient montrées du doigt, étaient souvent malmenées par une certaine catégorie de la société, et ça va aussi les Arabes, les Noirs, enfin on peut étendre ça à tout un tas de choses. Et je vais vous dire. Ce qui se passe aujourd'hui dans cette société, c'est qu'il y a, parmi toutes ces catégories de personnes, des chapelles qui ont vraiment une attitude très agressive, revendicatrice, et qui, par le biais des réseaux sociaux, où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles sur ces réseaux sociaux. J'entends par là qu'il n'y a pas de... Chacun peut dire ce qu'il veut, mais c'est la démocratie, c'est très bien, c'est la liberté de dire ce qu'on veut. Mais on peut dire ce qu'on veut quand on signe au bas avec son prénom, son nom et même son numéro de téléphone. Vous voyez, ça, c'est la règle primordiale qui n'existe pas sur les réseaux sociaux et qui n'existe pas sur le net. Et tant que ça sera comme ça, ces chapelles qui ont vraiment une revanche à prendre parce qu'elles se sont senties martyrisées et souvent à juste titre, parce que la transphobie, l'homophobie et toute forme de racisme finalement. Vous adhérez aussi au fait que ça ne doit pas exister et qu'on doit se battre contre tout ça. Je sais que vous partagez ça. Mais aujourd'hui, dans la situation où vous êtes, je pense que vous êtes très sensible à tous les mouvements qu'on peut avoir dans la fiction. Pourquoi ? Parce que ces chapelles sont extrêmement revendicatives et très... travaillent beaucoup à tout ça, revendiquent et sont extrêmes dans leur combat. Parce que
c'est exactement le terme, c'est extrême.
Oui, elles sont extrêmes, mais finalement, quand vous travaillez depuis 15 ans sur ces problèmes-là, comme moi, vous vous apercevez que c'est une minorité de toutes ces de tous ces groupes. Voilà, c'est une minorité, mais qui crie très fort, qui crie très fort,
qui sont qui sont aussi entendues puisque ça remonte jusqu'aux politiques.
Elles sont entendues parce qu'elles crient très fort.
Qui sont entendues parce que quelque part, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est normal qu'on. Enfin, moi, je suis pas féministe, je suis pas homophobe, je suis rien du tout. Moi, je suis humaniste quelque part à la base. C'est-à-dire que qu'on soit blanc, black, jaune, vert, rouge, martien, du moment que la personne est humaine et qu'elle a des valeurs. Chacun fait ce qu'il veut du moment qu'on se respecte. Mais je trouve aujourd'hui, et dans ma situation, moi je vois bien ce qui en a découlé par rapport à mon emploi. On vient tacler, et c'est subtil, hein, c'est très très subtil, hein, on vient tacler sur bah oui, mais vous êtes un homme, bah vous, on va vous mettre de côté. Voilà. Et ça, vous le percevez dans
mais
le,
il
dans,
existe.
Dans le quotidien.
Mais je le perçois. Alors ça, ce dont vous parlez, je le perçois aussi. Il y a aujourd'hui certaines personnes qui occupent des postes importants et qui très clairement vont maintenant favoriser la promotion et par exemple chez les femmes, la promotion, mais à l'outrance des femmes. Je le perçois. Je trouve ça très dérangeant. Mais pas parce que je suis un homme. Je trouve ça dérangeant parce que il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes et qui représentent l'écrasante majorité des Français qui n'ont jamais ressenti que tout ça ne marchait pas bien. Il y a, on a évoqué MeToo, nécessaire tout à l'heure, qui a mis en lumière le comportement. Mais encore une fois, le comportement de certaines personnes, d'une minorité d'hommes, sans doute minorité d'hommes importants, occupant des postes importants, se comportant comme des porcs. Et de là est découle l'idée que, bah, que tout homme blanc hétérosexuel est un prédateur en puissance. Il faut faire attention à ne pas se laisser trop gagner par ça, parce qu'on finit dans la paranoïa.
C'est ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que, voilà, on, comme disait mon avocat, je répète, on fait partir avec le du bain toutes les personnes. Alors que non, il y a des gens qui sont extrêmes et qui sont complètement... qui ne vont pas bien. Il y a des gens qui sont normaux et ces gens-là, on va les positionner qui sont des victimes. Ouais. On va leur dire, bah non, monsieur.
Il y a des gens qu'on, bon, voilà, on a vraiment parlé de ces gens qu'on une revanche à prendre quelque part. Ouais. Pour en revenir à votre situation. Est-ce que vous sentez que votre avocat, le combat que vous menez, vous allez pouvoir le mener jusqu'au bout ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir faire reconnaître tout ça ? Ou que finalement, c'est très compliqué aujourd'hui parce que, justement, on est dans un moment où notre société n'a pas encore... encore une fois, et je crois que Internet y est pour beaucoup, Internet, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, sans règles, sans cadre.
Sans règles.
Où tout le monde peut... Allez, déverser sa bile et on y voit vraiment quand on se plonge dans Twitter
ça me fait peur
Twitter. Alors je vais vous dire, cet été j'ai pris le temps, parfois ma femme m'a montré Twitter sur certains sujets, mais c'est effarant de bêtises et de méchanceté et de Enfin, c'est terrible. Et tout ça pour être réglé par le fait qu'on ne puisse pas continuer à écrire des insanités sans être dévoilé, quoi. En tout cas, sans qu'on sache à un moment, Monsieur X habitant là, c'est lui qui a écrit ça, et voilà, et qu'il puisse s'en expliquer. Ça va des menaces de mort aux insultes. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de ça. Vous souffrez de ça aujourd'hui parce que c'est le même schéma aujourd'hui.
C'est le même schéma.
Il y a eu quelqu'un qui vous a accusé. Ça aurait pu se passer sur Internet, hein, ça aurait pu se passer sur un réseau. Je ne sais pas comment ça s'est passé, sans doute dans le cadre d'un règlement d'un divorce, justice familiale. Et d'un seul coup, il y a eu ces accusations qui, aujourd'hui, peuvent être émises par n'importe quel canal. Hein. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans votre situation. Ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous pouvez vous en sortir réellement blanchi ou que finalement, lorsqu'on est victime de ça, et je vous parle ce soir, demain je pourrais en être victime.
Mais c'est vous, c'est moi, c'est votre frère, c'est votre père.
Exactement. Voilà. Est-ce qu'il est possible pour vous qui êtes en plein dedans depuis 2 ans, est-ce qu'il est possible de s'en sortir de ça?
Alors, mon combat par rapport à ma reconnaissance vis-à-vis de la société, je dirais que je l'ai gagné. Par rapport à la justice. Mais je suis marqué au fer rouge, c'est-à-dire que ouais, où je porte un sac à dos, j'ai l'impression d'avoir une pancarte au-dessus de ma tête en disant ouais, il a été accusé de pédophilie, donc il n'y a pas de fumée sans feu.
Ouais.
Maintenant, moi, le combat que je mène par rapport à mon emploi, parce que je veux que ça fasse un précédent. Je veux qu'on se dise bon, effectivement, il y a des gens qui sont complètement tarés, qui sont capables de faire des actes délictueux. Mais on n'y est pas tous. Et on ne peut pas, lorsqu'il y a un jugement qui est rendu, une décision de justice qui est rendue, alors on m'a dit que ce n'était pas une décision parce que c'était un non-lieu, donc voilà. Bon, on joue sur les termes, mais quand il y a une décision de justice qui est rendue, c'est-à-dire c'est immédiat, on devrait pouvoir remettre la personne immédiatement dans ses pleins droits. Et bien aujourd'hui, parce qu'il y a. Soi-disant des choses qu'ils veulent vérifier dans le jugement pour ça. On ne le fait pas.
Qui conteste ce jugement, en fait, à part votre hiérarchie
Dans le courrier que j'ai reçu, ils me disent clairement il y a un protocole. Alors, on va parler de la hiérarchie en général, sensibiliser les gens. Il y a un protocole qui est inscrit au sein de cette fonction. Qui vous oblige à. Alors, effectivement, quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes tenu à suivre le protocole, blablabla. Mais lorsque vous êtes accusé, on vous met à l'écart, on vous retire de votre emploi.
Mais par mesure de sécurité, de protection et conservatoire, on va dire.
Et conservatoire, mais on vous exclut quand même de votre poste et vous n'êtes plus payé. J'ai eu la chance de continuer à être payé. J'ai eu la chance de continuer à être payé parce que depuis 2015, jusqu'à aujourd'hui, on m'a payé parce que mon ancienne hiérarchie était au courant et a fait le nécessaire pour que ça se passe bien et que voilà, ils avaient confiance parce que voilà, bref. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas parce qu'il y a ces mouvements, comme on parlait tout à l'heure, des mouvements, je dirais, extrêmes qui ont mis en place des choses qui sont normales pour protéger les enfants. C'est normal. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de demi-mesure. C'est par exemple, sur une certaine catégorie de personnes qui sont animateurs, si vous êtes un homme, vous êtes obligé d'être à deux pour être avec les enfants. Si vous êtes une femme, par exemple, pour faire certaines choses, vous pouvez être toute seule. Vous voyez, il y a de la discrimination malgré tout. Mmh. Et c'est ça que je trouve dommage, parce qu'on ne fait plus confiance. Et quand je vous dis vous êtes un homme blanc hétérosexuel, la discrimination, quelque part, elle est un petit peu là. Et moi, ça me dérange. Parce qu'on n'a pas été traité comme ça.
Bien évidemment. Mais des collègues...
Si vous voulez, ces extrêmes-là, comme on parlait, alors, ça reste des minorités, on est bien d'accord, mais ces extrêmes-là qui viennent polluer tout le bon de ces actions. De ces idéaux de protéger les enfants. Tout ça, ça vient polluer, ça vient gripper, ça vient... du coup, c'est pas fluide. Et puis, bah, vous vous retrouvez avec des choses qui sont complètement aberrantes. Et, dans mon cas, c'est quelque chose d'aberrant.
Malheureusement, parce que c'est très sensible et qu'on parle là de l'intégrité physique d'enfants. Et celles et ceux qui déclenchent ce type d'accusation savent très bien quelles vont être les conséquences pour l'accusé. Parce qu'il faut quand même aussi avoir une drôle de mentalité et bien peu de conscience morale pour promulguer ce type d'accusation.
Oui, mais après, on va vous dire c'est mon enfant qui m'a dit que. Alors, donc, comme c'est la parole de l'enfant, forcément, c'est la vérité. Et aujourd'hui, la commission civile dit clairement, dès qu'un enfant parle, c'est la vérité.
C'est pas toujours le cas. Enfin,
mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est pas toujours le cas.
La parole de l'enfant, malheureusement, dans beaucoup de cas, est remise en question et tout dépend des juridictions, à tort ou à raison. Mais ça n'est pas si simple que ça. En tout cas, on peut pas le résumer à ça. Mais il est vrai que quand un enfant, on sait qu'un enfant peut être dans un conflit de loyauté et que à partir de là, on peut lui infliger. Tellement de choses qu'il va pouvoir être capable de raconter des choses aussi, dans certains cas, pour faire plaisir à l'un ou à l'autre des parents. Enfin bon, il y a tout un. On évoque souvent toutes ces problématiques et on les évoquera malheureusement encore beaucoup sur cette libre antenne cette année, parce que des histoires comme la vôtre, malheureusement, j'en entends toute l'année. C'est-à-dire ce type d'accusation, on ne prend pas même toutes les personnes à l'antenne parce que c'est malheureusement quelque chose qui est devenu courant. Voilà, ça se passe mal dans un divorce et boum, d'un seul coup, allez, on va utiliser ça parce qu'on sait que ça fait mouche pratiquement à chaque fois.
C'est l'arme absolue.
C'est l'arme absolue.
C'est l'arme absolue et vous avez, vous retrouvez avec, au départ, c'est le bout du pied dans un engrenage, ça vous prend la jambe, les deux jambes, ça remonte et vous êtes broyé. Alors moi, je qui prône la résilience en disant il faut se battre, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et dire que voilà, je suis malheureux, etc. etc. Mais il y a des fois.
Mais parce que vous êtes solide.
J'ai quand même fait au tout début, enfin, je suis devenu solide par la force des choses. Mais le fait d'être solide aujourd'hui, vous voyez, ça ne m'a pas empêché. Lorsque j'ai déposé plainte là récemment, qu'on m'a reposé des questions, on m'a parlé de mon enfant, ça m'a broyé, je me suis effondré.
Alors, il nous reste 3 minutes, Fabrice. On se reparlera sans doute dans l'année, mais où est-ce que vous en êtes là actuellement? Vous n'avez pas pu récupérer votre mission, la mission qui était la vôtre et où visiblement, en plus, on a beaucoup plus besoin de vous qu'avant dans cette mission. Malgré tout, on préfère sacrifier votre savoir, vos qualités.
Et on me demande de partir de mon poste, d'aller voir ailleurs.
D'accord. Voilà. Et donc, quelles sont les armes que vous avez aujourd'hui pour pouvoir espérer récupérer ce qui devrait vous revenir normalement, puisqu'il y a une décision de justice?
Alors déjà, dépôt de plainte au pénal par rapport aux accusations qui ont été portées contre moi en réunion. Et ensuite, tribunal administratif pour faire respecter mes droits. Saisie du CHSCT, du Bureau de la prévention des risques professionnels. Je mets tout en œuvre pour que les choses soient rendues de façon à ce que je puisse être réintégré et que l'ensemble de mes collègues ne souffrent plus de la situation qu'on leur a imposée et que moi, je n'ai pas imposée. Je n'ai rien imposé du tout. C'est mon employeur qui m'a imposé cette situation-là, je rappelle les choses, c'est pas moi qui ai cristallisé les difficultés dans mon service, c'est bien mon employeur qui a cristallisé les choses.
Je crois que le journal Le Parisien s'est penché sur votre cas et a évoqué ce dont vous étiez victime aujourd'hui.
Tout à fait, il y a eu un article. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une lettre en recommandé en disant qu'il risquait des sanctions disciplinaires. Peut-être, on ira On ira au tribunal.
Mais vous n'avez pas d'autre choix, malheureusement. En fait,
j'ai
l'impression que ce qui vous est arrivé,
les choses, et c'est ma santé physique et morale qui est en jeu aujourd'hui.
Bien sûr. Et c'est votre honneur qui est en jeu aussi.
Mais mon honneur, moi, j'attends pas grand-chose aujourd'hui. J'attends juste qu'on me rétablisse dans mes fonctions et qu'on s'excuse. C'est pas compliqué. Excusez-nous, on s'est trompé. On vous rétablit. Point. Après, si vous voulez partir, monsieur, partez. Moi, si demain je retrouve le poste avec mon ingénieur qui est parti récemment, que j'avais un peu formé, qui restait 9 mois, il est parti. Moi, je pars travailler avec lui parce que c'était un type génial. Mes collègues sont des gens géniaux. Je m'entends super bien avec eux.
Mmh. Vos collègues sont solidaires avec vous en plus, hein, j'ai cru comprendre.
Oui, tout à fait. Ils sont solidaires. Ils connaissent mon histoire depuis le début. Mais voilà, ils sont solidaires. On se dit, mais on avait un service qui fonctionnait super bien, on était hyper efficace, et malheureusement, voilà, avec ça, ça a tout détruit.
Mais écoutez, vous ne serez pas sans nous redonner de nouvelles. Hein. J'espère que cette situation, bien évidemment, va arriver au bout et que vous serez à un moment entendu. On sent à travers votre témoignage qu'il reste encore du chemin à faire, et je pense que vous en êtes parfaitement conscient, Fabrice. En tout cas, courage à vous et merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Tenez-nous au courant, d'accord ?
Oui, merci beaucoup.
Courage, Fabrice, courage à
bonne
vous.
Soirée.
Au revoir.
Merci, au revoir.